Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Jean-François
Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Jean-François, Tom est en panne. Il attend le remorqueur. Il est en panne d'automobile. Donc, tu as la glace à toi tout seul. Tu ne te feras pas interrompre, mon cher Jean-François, aujourd'hui.
D'accord.
On revient sur le cours d'histoire que Justin Trudeau a donné pour expliquer aux Canadiens que non, nous ne sommes pas anti-musulmans au Québec. C'est rien qu'on a développé à cause de notre histoire, une certaine méfiance envers toutes les religions. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de son petit cours d'histoire du Québec 101?
Ben, deux choses. D'abord, qu'il y a le Justin du mardi qui se fout pas mal de ce que pense le Québec puis qui est 100% en faveur de quelqu'un qui pense tout le mal qu'elle pense. Et le Justin du mercredi qui est un pédagogue sensationnel. Moi, je l'ai écouté en français et en anglais et je ne sais pas s'il s'était entraîné avant. Mais c'était une excellente synthèse de ce qui se passe au Québec.
Mais écoute, j'avais quasiment l'impression d'écouter ton balado quand tu expliques des choses de l'histoire du Québec, Jean-François.
Bon, je te remercie. c'était très bien. La seule chose qui détonnait à la fin, c'est qu'il disait « Moi, je suis de cette façon-là de voir les droits et libertés. » Ben, c'était vrai. La conclusion de ce cours d'histoire, de cette pédagogie, c'est que il y a deux visions des droits et libertés et de la laïcité au Canada. C'est normal, il faut les laisser cohabiter et donc il ne faut pas contester la loi sur la laïcité. Et la clause dérogatoire, c'est la conclusion logique de ce qu'il disait.
C'est ce qu'écrit ton collègue du Devoir, Michel David, aujourd'hui, en disant, va au bout de ta réflexion. Et si, effectivement, tu dis que la loi 21 est le résultat, finalement, de tout un cheminement historique, ben pourquoi la combattre en cours?
Exactement. Je suis très, très fâché contre Michel quand j'ai vu ça ce matin, parce que c'était exactement ce que je voulais écrire samedi. Alors, c'est ça. Donc, évidemment, on peut, qui a commencé en disant, bon, les Québécois sont pas racistes, voici pourquoi ils sont méfiants envers la religion, c'est très bien, c'est très pédagogique, et il l'a dit en anglais aussi, mais on doit constater qu'il l'a dit le jour où il savait que quelques minutes plus tard, Mme El-Gawabi allait présenter des excuses devant Yves-François Blanchet, et que donc, il était en train d'ouvrir un espace politique pour permettre à ses députés et ministres du Québec de respirer un peu, puis de dire, bon, on va tourner la page, on va accepter ses excuses. Et c'est sûr que ce qui s'est passé dans l'intervalle entre le Justin du mardi et le Justin du mercredi, c'est que ces députés et ministres du Québec ont dit, ben là, tu peux pas l'appuyer à 100%, t'as pas l'air au courant de ce qui se passe au Québec. Ceux qui sont dans des circonscriptions francophones comme à Québec, ça n'a pas de sens ce que t'es en train de nous faire. Et donc, il faut que tu nous donnes de l'oxygène. Tu veux qu'on avale le fait que cette dame-là va garder son poste. Et c'est ce qu'il a fait. Il leur a donné de l'oxygène. Et quelqu'un comme Pablo Rodriguez, par exemple, qui va rencontrer Mme El-Gawabi, va pouvoir dire, ben, elle s'est excusée, elle va cheminer. Même le premier ministre finit par dire qu'il était en désaccord avec beaucoup des choses qu'elle a écrites, ce qu'il disait pas le mardi, mais ce qu'il a dit le mercredi. Et donc, il est en gestion de crise, et dans ce sens-là, on peut dire, bon, ben, il gère bien sa crise, sans tirer la conclusion que puisque cette dame ne comprend pas ce que lui-même a expliqué, elle ne devrait pas avoir ce poste, il veut pas tirer cette conclusion-là, mais il veut, disons, apaiser la révolte qui grondait dans son caucus québécois.
Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la démarche de Yves-François Blanchet? Parce qu'elle est toute contente, là. Elle rêvait de ça, de finalement que le chef du Bloc l'entende et qu'elle puisse parler. Tu sais, c'est comme s'il lui a fermement permis à Mme El Gawabi d'avoir comme une sorte de bénédiction du Québec et de se refaire une image et tout ça. C'est assez particulier comme démarche de la part de la chef du Bloc.
Oui, alors ça, je pense pas qu'il s'attendait à ce qu'elle présente des excuses assis à côté de lui. Alors c'est vraiment un grand moment de télévision et de politique fédérale de ce qu'on a assisté à ça hier parce que François Blanchet avait dit avant de la rencontrer que la conclusion à laquelle il allait se rendre sur cette question était un peu prévisible, puis on comprenait qu'il allait demander son retrait, mais la nature de la conversation allait moduler la façon dont il va proposer des choses pour la suite. Alors ça, c'est ce qu'il a dit avant de la rencontrer. Mmh. Puis là, on décodait, bon, il veut la rencontrer, puis ensuite, il va demander sa démission, ce qui devrait arriver à 11h aujourd'hui. Mais effectivement, ça a permis... Ben... à Mme El Gawabi d'utiliser ce moment-là pour présenter ses excuses. Ce qui demande, moi je suis d'accord que ça ne suffit pas dans le sens que je suis content qu'elle s'excuse, mais elle n'est pas la bonne personne pour ce poste-là, si ce poste-là doit exister. Mais admettons que le cran que ça a pris pour se dédire devant un chef séparatiste, c'est quand même extraordinaire.
Non, mais quand même, c'est assez particulier parce qu'elle était dans une mauvaise posture. Alors, mais tu la laisses dans la mauvaise posture, tu comprends? Tu lui donnes pas la chance de, soudainement, de redorer son image. Elle était dans l'eau bouillante, elle est gigotée, tu la laisses gigoter. Quand tu es chef du Bloc québécois, tu dis pas non, on va te sortir de l'eau chaude, puis viens, puis essaie de t'expliquer et tout ça. Là, je me disais, coudonc, il est-tu en train de travailler pour Justin Trudeau, M. Blanchet?
Écoute, moi, je prévois qu'à 11h aujourd'hui, il va dire, mais je suis content de l'avoir vu, je suis content qu'elle s'excuse, mais ce n'est quand même pas une personne qui devrait rester à ce poste-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que Yves-François Blanchet a eu une exposition médiatique maximale, a été placé dans le rôle de juge, finalement, d'une affaire qui est au centre de l'actualité canadienne et québécoise. Et qui a le rôle de sage. Alors, je pense que médiatiquement, ça l'a placé, lui, au centre du jeu aussi, ce qui l'aide beaucoup. Et comme à la fin, lui, il va quand même demander son retrait, il fait en sorte d'exister comme s'il était le chef de l'opposition officielle du Canada, ce qui n'est pas le cas.
Écoute, je vais profiter de l'absence de Tom pour y aller moi aussi d'un grain de sel. Je veux attirer ton attention, Jean-François, et celle des auditeurs sur un texte, un éditorial du Ottawa Citizen de M. Terry Glavin qui écrit sur Mme El Gawabi, puis ça nous aide à mieux comprendre qui elle est et d'où elle vient. Alors, on sait que l'Agence de revenus du Canada, Jean-François, enquête sur certains organismes et certaines associations musulmanes parce que, bon, on craint que c'est arrivé, il y a certaines associations qui amassaient de l'argent supposément pour aider les musulmans et finalement qui envoyaient cet argent-là à des groupes terroristes à l'étranger comme le Hamas, comme le Hezbollah, etc. Donc, là, on vérifie les livres de certaines organisations pour savoir si tout est correct et s'ils ne servent pas justement de courroie de transmission pour ces organismes-là. Il y a 2 ans, il y a eu un sommet sur l'islamophobie et le Conseil national des musulmans du Canada, qui était l'employeur de Mme El Gawabi, a travaillé pour eux autres. Ils ont demandé à l'Agence de revenus du Canada de cesser de faire des audits comme ça auprès des organismes musulmans, d'arrêter parce que c'était de l'islamophobie. Donc, écoute, vérifiez pour voir si certaines organisations ne sont pas bidons et n'envoient pas de l'argent au terrorisme, il semble que pour la sécurité nationale, c'est très important. Eux autres disaient non, vous allez arrêter ça tout de suite, c'est de l'islamophobie. Et elle, c'est ce qu'elle pensait à l'époque. Ça te montre à peu près où elle est, là. C'est assez intéressant comme texte.
Ben, oui, d'ailleurs, sur le débat sur l'islamophobie, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, il y a un de ses tweets qui est ressorti. Quelqu'un disait sur son fil Twitter, il faut faire la distinction entre le sentiment anti-musulman qu'il faut combattre et l'islamophobie qui interdit toute critique de l'islam.
Oui.
Et elle écrit non.
Ah ouais.
Elle écrit juste non. Pour dire qu'il ne faut pas faire cette distinction-là entre les deux. Alors, donc, c'est une vision de l'islamophobie qui est celle un petit peu des mollahs puis des Iraniens et des Saoudiens, c'est que toute critique de l'islam
est inacceptable.
Et du racisme en soi est un affront à la liberté d'expression, évidemment. Alors, moi, je dis, peu importe ce qu'elle a écrit sur le Québec et sur la journée du Canada et sur tout le reste, si c'est ce qu'elle pense, que toute critique de l'islam et du racisme, elle ne devrait pas être à l'emploi du gouvernement fédéral.
Absolument pas, surtout que son rôle, c'est de construire des ponts et de lutter contre la polarisation. Madame El-Gouabi dit, elle semble pas avoir mesuré l'impact de ses paroles auprès de la population du Québec. Et je faisais un gag tantôt, c'est comme si tu disais à ta belle-mère, ma grosse niaiseuse, puis elle se mettait à pleurer, puis tu disais, mais bon Dieu, pourquoi vous pleurez comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit pour vous choquer? Voyons donc, elle nous a traité de racistes. Elle pensait quoi, qu'on était pour danser une gigue?
C'est pourquoi, les excuses, c'est bien. On est content qu'elle s'excuse, puis elle les a bien faites, hein, ces excuses-là. Mais ça ne veut pas dire, c'est impossible de croire qu'elle est en désaccord avec tout ce qu'elle a écrit. C'est juste impossible. Et s'il fallait que ce soit vrai, c'est pas quelqu'un qui a une cohérence idéologique assez forte. C'est un no-win. Mais le problème, c'est que Justin Trudeau va utiliser ça pour dire, vous voyez, c'est ce qu'il disait hier. Elle va cheminer, puis elle va apprendre, puis c'est le dialogue, puis c'est ça. Ben oui, mais t'es censé cheminer avant qu'on t'embauche.
Et surtout, Jean-François, c'est pas un lapsus là, comme une phrase qui t'échappe à une reprise, comme tu le dis, c'est à plusieurs reprises. Elle l'a dit, elle l'a écrit. C'est le fond de sa pensée. En tout cas, on va en parler encore. J'ai très hâte d'entendre M. Blanchet aujourd'hui. Thomas Gerbet, l'excellent journaliste de Radio-Canada, a mis sur son fil Twitter là, un extrait de Justin Trudeau qui, mon Dieu, vantait les qualités de M. Barton, le patron de McKinsey, en disant qu'il était fantastique et grâce à lui, son carnet d'adresses, on a pu faire des affaires en Chine. On avait tellement besoin de lui. Il nous a ouvert les portes du monde. Alors là, M. Barton, il a dit, ah non, on n'est pas des amis, là. On n'est pas si proches que ça. Là.
Oui, c'est extraordinaire parce que il y a cet extrait-là, donc, de M. Trudeau, et il y a un extrait de Chrystia Freeland au moment où Barton est nommé ambassadeur en Chine, et elle dit, ce qui est extraordinaire avec Dominique Barton, c'est que lui, il peut prendre le téléphone puis avoir Justin Trudeau au bout du fil n'importe quand, quand il le veut. Moi aussi, il peut m'appeler. Mais Justin, plus, parce qu'il a une relation personnelle avec Justin qui est vraiment bonne. Il a une bonne relation avec moi aussi, mais avec Justin surtout. Puis là, Barton, hier, au comité parlementaire, il dit, j'ai jamais parlé au téléphone. J'ai pas son numéro de téléphone. Je l'ai rencontré dans son bureau 5 fois. Jamais tout seul. Il y avait toujours quelqu'un. C'est pas mon ami. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est pas un ami. Puis là, tu dis, là, il y a quelqu'un qui ment, là. Ça, c'est sûr, là. Alors, est-ce que c'est Justin puis Chrystia Freeland pour se donner de l'importance qui laissait croire qu'ils étaient très proches de lui, ou est-ce que c'est Barton pour de réduire son importance, c'est-à-dire Justin Trudeau, je sais même pas c'est qui, je sais même pas où il est.
On a un extrait, Jean-François, un extrait de Mme Freeland qui parle de M. Barton. On écoute ça.
Who can pick up the phone at any time and speak directly to the Prime Minister, speak directly to me, someone who has that personal connection and a personal connection built up over time.
Ben, c'est clair, là. Elle dit, il y a des connexions. Le gars, là, il est connecté à l'os. Il peut prendre le téléphone, parler à n'importe qui.
C'est ça, c'est ça. Alors lui, non, j'ai même pas le numéro. Mais moi, je l'ai écouté, donc, Dominique Burton, puis, bon, comme tu sais, j'ai lu le livre, là, Quand McKinsey arrive en ville, qui, pour beaucoup, explique ce que McKinsey a fait pendant la décennie où Burton était président mondial de McKinsey. C'est un Canadien, mais il présidait pas McKinsey Canada, il présidait McKinsey mondial. Et il y avait un député du NPD, là, qui était un excellent procureur hier, il s'appelle Genius, quelque chose comme ça, et qui lui dit, bon, ben, pendant que vous étiez président, votre compagnie a aidé la pharmaceutique Purdue à turbocharger, c'était le terme utilisé par McKinsey, ses ventes d'opioïdes qui ont causé des dizaines de milliers de morts. Et vous avez dû payer 600 millions de dollars de dommages à des États américains. Alors, quelle était l'erreur que vous avez faite? Ben, il dit, l'erreur, c'était de... Il dit, étiez-vous au courant? Il dit, non. Il dit, vous n'étiez pas au courant que Purdue était votre client? Il dit, non, vous savez, on a des milliers de clients. Mais oui, mais étiez-vous au courant que vous étiez en train d'aider ce qui se passait avec les opioïdes? Il dit, non. Ben, écoutez, vous dites, le président, c'est un énorme client. Puis, de toute façon, c'était dans le journal que que votre client était dans l'eau chaude à cause de ça. Il dit non, j'étais pas au courant. Fait que le gars dit, mais est-ce que vous êtes au courant de l'existence de n'importe lequel de vos clients? C'était comme...
C'est surréaliste, là. C'est oui. Ubuesque, comme on oui. dit, là, vraiment. Et en terminant, écoute, t'as vécu aux États-Unis pendant un bout de temps. T'étais un observateur de la scène américaine. T'as écrit un livre excellent qui s'appelle « Dans l'œil de l'aigle » sur les États-Unis. On voit là, la brutalité policière. Hein. Il y a eu, bien sûr, George Floyd. À Memphis, il y a cet Afro-Américain-là qui a été tué par 5 policiers qui était noir, faut le dire. Et là, on voit qu'ils ont tiré sur un gars qui avait pas de jambe, qui se sauvait, et ils ont tiré sur un gars pas de jambe, qui était amputé des deux jambes. Plutôt que de l'arrêter, ils ont tiré dessus. À l'époque, quand tu étais là aux États-Unis, est-ce que la police était réputée pour être aussi brutale que ça à cette époque-là? Parce qu'ils ont un problème de brutalité policière, là, Jean-François.
Oui, ça a toujours été le cas. C'est juste qu'on en parle davantage, puis qu'on a des iPhones puis des body cam. C'est ça la grande différence. Alors ça s'est passé constant. Il y a un problème évidemment de racisme, puis il y a un problème de violence. Et donc il y a une culture de la violence. Puis là on voit que ça dépasse la couleur de la peau du policier, parce qu'il y a de la violence de policiers blancs et de policiers noirs. Moi j'aime les Américains comme toi. Ça me désole. Je me demande comment ils vont s'en sortir. Puis tu sais, là, c'est rendu que vous le savez, vous avez des caméras là. Vous le savez que ça va passer à TV. Puis vous tapez quand même.
Oui.
Qu'est-ce que ça va prendre exactement? C'est-à-dire votre instinct brutal est plus important que votre sens d'autopréservation parce que vous allez perdre votre job, vous allez en prison. Maintenant, ce qui est complètement différent depuis Floyd, c'est que avant Floyd, les policiers n'allaient jamais en prison. Depuis Floyd, ils vont en prison. Alors, il me semble que c'est une motivation d'arrêter de taper, non?
Ben tout à fait. Et tu sais, dans notre imaginaire, c'était surtout les policiers blancs qui étaient comme ça. Mais là, dans le cas de ce qui s'est passé à Memphis, c'est 5 policiers noirs. Donc, ça transcende la couleur des policiers, là. Quand on dit on va avoir plus de diversité dans la force policière parce que justement, ça va les aider à être moins brutaux, on voit qu'il y a une culture qui existe qui transcende la couleur de la peau.
Est-ce qu'on peut se dire un instant que tous les problèmes que nous avons, nous, avec la criminalité et le profilage racial, on est quand même extraordinairement choyé d'être très loin de cette réalité-là
et
de vivre dans une société qui est beaucoup plus apaisée que ce qui se passe aux États-Unis?
Tout à fait. Et en terminant, une petite pensée pour la marmotte Phil qui est morte subitement.
est mort de froid.
Oui. Ah, c'est Fred. OK, c'est Fred qui est mort. Fred, la marmotte de Val d'Espoir, est décédé cette nuit. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup. Mort de froid, oui. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle demain. Bye.
À demain. Salut.